Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Alexandra Candilonguet. À la technique, Marie-Claire Oumabadi.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous poursuivons notre récit des origines de la richesse britannique. Après avoir parcouru les fiefs anglais aux côtés de Guillaume le Conquérant et de Jean sans Terre, et avant d'embarquer en direction des colonies demain et de nous glisser dans la peau de Margaret Thatcher jeudi, nous prenons aujourd'hui la direction de Londres, où se crée à la fin du XVIIe siècle une institution qui va bouleverser l'économie, la Banque d'Angleterre, une invention qui révolutionne la finance et permet à la Grande-Bretagne de devenir la première nation industrielle du monde. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons revenir aux origines de la City en compagnie de Ludovic Desmet en duplex d'Amiens, économiste, professeur à l'université de Dijon, co-auteur de cet ouvrage « Les pensées monétaires dans l'histoire » paru chez Classique Garnier en 2014. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous et il apportera avec lui son journal de l'écho. Bonjour Ludovic Desmet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, nous allons nous plonger dans l'Angleterre du roi Charles Ier qui monte sur le trône en 1625.
Il faut en finir. Je n'ai plus un penny. Je vais avoir la guerre, Strafford. La guerre contre les Écossais, contre mes sujets d'Écosse.
Cela, ce n'est plus de ma faute, mais de la vôtre, mon cher archevêque.
De ma faute?
Oui, parce que vous avez voulu imposer aux Écossais le rite anglican. Ce sont des réformés, ce n'est déjà pas si mal. Il pourrait être catholique.
L'Église d'Écosse n'est pas réformée, elle est déformée.
Messieurs, messieurs, je vous en prie, le problème n'est pas là. Je vais avoir une armée à payer. Or, je suis pauvre. Tragiquement pauvre. Je vous ai fait venir, Strafford, pour que vous me trouviez de l'argent.
Alors, je ne vois plus qu'un moyen, sire. Le Parlement.
Quoi ? Rappeler le Parlement ?
Oui, rappeler la Chambre des Lords et celle des communes.
Vous me la baillez belle. C'est cela, votre conseil ? Passe encore pour les Lords. Mais ces gens des communes, ces insupportables bavards, dont j'ai eu tant de mal à me débarrasser il y a 10 ans.
Point de parlement, point d'argent.
Point de parlement, point d'argent, un extrait de la série télévisée La caméra explore le temps, avec Michel Bouquet dans le rôle de Charles Ier. Le manque d'argent, Ludovic Desmet, voilà un problème récurrent pour Charles Ier, comme pour son père, Jacques Ier, avant lui.
Oui, ça c'est une... C'est une constante du pouvoir anglais, sûrement des pouvoirs en Europe à cette époque-là, c'est d'avoir accès à des ressources qui sont rares, d'autant plus que, contrairement à ce qui se passe en Espagne ou au Portugal, on n'a pas accès aux trésors qu'on trouve en Amérique du Sud, à l'or et à l'argent. On n'a pas non plus de mines d'argent qui sont extrêmement productrices, et donc on est obligé de négocier avec des bailleurs de fonds, et éventuellement avec le Parlement, en essayant de passer par lui. Et là, c'est assez bien résumé, je trouve, parce que avant la fin du XVIIe siècle, les rapports entre le roi et le Parlement seront très tendus, pour le moins, et donc les rois auront véritablement des difficultés pour s'approvisionner en fonds, et essentiellement pour faire des guerres à cette époque-là, puisqu'on n'a pas de service public à financer, on a essentiellement des armées.
Il faut expliquer peut-être en effet, Ludovic Desmet, qu'à ce moment-là, il faut financer à la fois la guerre anglo-espagnole au tout début du règne de Charles Ier, et puis plus largement la guerre de 30 ans qui va déchirer toute l'Europe de 1618 à 1648.
Oui, on est vraiment dans une période très, très troublée. De toute façon, les Européens vont passer leur temps à se faire la guerre pendant une bonne partie du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec des combinaisons qui peuvent varier, mais on retrouve souvent effectivement les Espagnols, les Anglais, les Français, les Néerlandais, enfin les Flamands qui sont espagnols, mais qui vont essayer de se libérer du joug de la couronne espagnole. Et donc c'est extrêmement coûteux, d'autant plus que pour les Anglais, il faut envoyer souvent des troupes sur le continent, ce qui coûte d'autant plus cher, il faut faire du change entre les monnaies, puisqu'on est encore en système monnaie métallique, essentiellement. Et tout ça, c'est une bonne partie du budget de l'État, c'est au moins la moitié, voire plus, en période de guerre.
Et alors, comment les rois se financent à cette période, Ludovic Desmet? Qu'est-ce qui existe en lieu et place de la City de Londres?
Alors, la City existe. On a déjà les murs et les artères qui la composeront plus tard et qui feront sa puissance au XVIIIe ou au XIXe siècle. Mais elle est quand même très balbutiante. On a un système de crédit qui est quand même assez balbutiant. On a des financiers, mais qui sont des financiers plutôt étrangers, hein, les fameux prêteurs lombards, mais qui sont plutôt des prêteurs sur gage pour des petites sommes. On a des grands propriétaires terriens qui peuvent éventuellement faire des avances aux souverains. Et on a quelques financiers aussi qui proviennent d'Europe, des Portugais, des Juifs. Plus tard, les Huguenots français viendront aussi s'installer en Angleterre, mais on a beaucoup de difficultés à se financer de manière pérenne, surtout. D'autant plus que les rois ont la fâcheuse habitude de répudier leurs dettes. Hein. Ça sera le cas au milieu du XVIIe siècle, où plusieurs fois l'échiquier, qui tient lieu en gros de ministère des Finances, va répudier ses dettes. Et donc, pour avoir un financement pérenne, c'est extrêmement compliqué. Il faut vraiment faire des contorsions, et en fait, ce que vont faire les souverains anglais, c'est qu'ils vont envoyer des émissaires royaux, disons, à Anvers, puis à Amsterdam, où on trouve vraiment la puissance financière européenne, le cœur financier européen, encore une fois, à Anvers au XVIe et à Amsterdam au XVIIe siècle.
Vous dites que la City, en tant que place financière, est encore balbutiante dans cette première moitié du XVIIe siècle, mais il y a tout de même eu cette création en 1565, donc sous le règne d'Elisabeth Ière, la première bourse de commerce, le Royal Exchange qui a été fondée. Qu'est-ce que cela a permis à cette création?
Alors, le Royal Exchange, on a l'impression que c'est un prototype de la bourse telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. Mais en fait, quand Thomas Gresham la fonde, d'ailleurs Gresham est celui qui est censé trouver des financements à Anvers pour la reine Elisabeth. Quand Gresham, qui a fait fortune, donc qui est un grand financier, qui est le grand financier de son époque, quand il fonde ce Royal Exchange, enfin quand il bâtit sur ses propres deniers le Royal Exchange, en fait c'est une bourse de commerce, c'est-à-dire qu'on va y trouver des marchands qui vont financer des expéditions, ou qui vont négocier du drap, ou qui vont négocier du tabac, du sucre, etc. C'est plutôt une bourse de commerce où on va avoir des effets privés qui vont se négocier, mais c'est pas la City de Londres au sens plus récent du terme.
Vous voulez dire qu'on échange des marchandises et non encore des titres?
Voilà, c'est on échange des marchandises essentiellement, c'est-à-dire que c'est là qu'on va négocier encore une fois des expéditions, qu'on va financer l'importation de telle ou telle denrée en provenance d'Europe ou plus lointaine d'Asie, et c'est là que se rencontrent les marchands. Mmh. Et progressivement, en fait, alors cette bourse de commerce fondée par Gresham va prendre feu au moment du grand incendie en 1666. Elle va être ensuite reconstruite. Mais en fait, les financiers vont prendre l'habitude, au cours du XVIIe, de se retrouver juste à côté de la rue des Lombards, là où, encore une fois, on peut trouver des financiers qui sont souvent d'origine d'Italie du Nord, où on peut faire du prêt sur gage, etc. Donc, à côté de la rue des Lombards, on a une toute petite allée qui s'appelle Exchange Alley. Et c'est dans les pubs, enfin, dans ce qu'on appelle les coffee houses à l'époque, qu'on va là négocier des actions, des obligations, des titres de rente, etc. Mmh. Et donc, à côté de la bourse de commerce, va se greffer des échoppes, enfin des coffee houses, donc des cafés, des pubs, où les financiers là vont négocier des titres financiers qui vont se greffer en fait sur ce qu'on échange concrètement, mais qui vont dériver, hein, on a déjà des produits dérivés d'ailleurs dès le XVIIe siècle, et on va voir une expansion de ce titre d'opérations tout au long du siècle.
Et alors, nous sommes toujours sous le règne de Charles Ier. On peut peut-être s'arrêter à une date clé qui est 1640, puisqu'à ce moment-là, Charles Ier fait saisir l'équivalent de 120 000 livres en argent déposés à la Tour de Londres. Quelles vont être les conséquences de cette saisie, Ludovic Desmet?
Alors, elles vont être énorme et inattendu, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire monétaire et financière, c'est qu'on a de temps en temps des décisions qui sont prises et qui vont avoir des implications à moyen ou long terme qui sont totalement inattendues, en tout cas qui ne sont pas du tout attendues par celui qui va prendre ces décisions. Et donc quand le roi saisit les stocks d'or privés, donc qui sont entreposés à la Tour de Londres, il va paradoxalement développer le commerce des orfèvres, des goldsmiths londoniens, puisque à partir de 1640, on a le doute qui va naître chez les riches anglais que si on entrepose dans un lieu public, enfin en tout cas géré indirectement par la couronne, son or ou ses espèces,
le roi va pouvoir se servir.
Voilà, le roi va pouvoir se servir. Hein. C'est comme une espèce de répudiation de la tête. En tout cas, c'est une saisie comme ça, brutale. C'est un peu l'équivalent d'une nationalisation, comme ça. Voilà, vous avez votre stock d'or privé et il devient la propriété du roi. Et donc, les riches marchands vont entreposer, à partir du milieu du XVIIe siècle, leurs espèces et leurs métal chez des boutiquiers privés, qui sont les orfèvres, et qui vont remettre en échange du dépôt des récépissés, des espèces de tickets de consigne, qui vont être les prototypes des billets de banque qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que et qui vont d'ailleurs pas forcément être libellés en somme ronde. C'est-à-dire que si vous remettez 125 livres en espèces à Monsieur Blackwell, qui est orfèvre, il va vous remettre un récépissé qui va être l'équivalent de la somme, ou plusieurs récépissés qui font l'équivalent de cette somme, et ce récépissé va pouvoir tourner dans les sphères commerciales londoniennes.
Et alors, vous l'avez dit, je vous laisse finir.
Et donc, on se coupe comme ça progressivement du métal, c'est-à-dire qu'on met le métal en caisse, et ce sont ensuite ces billets qui ne sont pas encore des billets de banque, hein, qui sont des billets émis par les orfèvres, qui vont circuler au sein de la classe marchande, essentiellement londonienne. Hein. Il n'y a pas beaucoup de circulation en dehors de Londres.
Donc les orfèvres deviennent les créanciers des marchands, mais aussi les principaux créanciers de l'État.
Voilà, ils vont commencer à prendre une place assez importante dans les années 1660-70. Effectivement, ils ont des stocks d'or, ils remettent ces récépissés, et ils peuvent aussi éventuellement prêter au souverain, si besoin, mais en étant très prudent. Et donc on a un début de hiérarchisation bancaire, en quelque sorte, qui commence sans avoir de banque supérieure, comme on l'appellera au 18e ou au 19e siècle, c'est-à-dire que c'est extrêmement diversifié. On a bien sûr des orfèvres qui peuvent faire faillite, donc qui reposent le problème de la confiance qu'on peut leur accorder. Certains ont plusieurs centaines, voire quelques milliers de clients. Ça, c'est assez exceptionnel, mais ce sont des réseaux très personnels et très privés qui dominent la vie financière londonienne jusqu'à la fin du 17e.
Et alors, parallèlement à ces bouleversements financiers, il y a des bouleversements politiques à cette période, un mécontentement qui monte dans les années 1640 chez les notables, mais aussi dans le peuple en Angleterre. C'est ce que nous explique l'historien Bernard Cottret.
Ce qui est extraordinaire à la faveur de cette révolution anglaise, c'est qu'effectivement, au départ, il s'agit d'une opposition entre un parlement de notables, il faut bien le dire, et puis la couronne. Et petit à petit, le peuple auquel on va donner les armes va prendre conscience à son tour de son peuple et va défier, j'allais dire, la bourgeoisie. Enfin, c'est pour employer cette catégorie qu'on utilise de moins en moins de nos jours, mais qui a quand même un sens. Et donc, on a un élément populaire et radical qui va prendre le dessus, en particulier à partir de 1645. Et Cromwell, qui va à la fois s'appuyer sur cet élément populaire et qui va savoir le réprimer.
Ludovic Desmet, quel est le contexte économique, mais aussi financier, qui va mener à cette révolution anglaise de 1649 ?
Alors, quand Cromwell va arriver, on est vraiment dans des affres plutôt religieux et politiques qui, je l'avoue, m'échappent un peu, parce que en tant qu'économiste, c'est des choses que on est obligé de manier, mais je ne connais pas vraiment les tenants et les aboutissants de cette situation. Mais on a un puritanisme qui va se développer et les affaires financières ne vont pas énormément prospérer pendant cette période. On a toujours, encore une fois, l'ascendant des Provinces-Unies, c'est-à-dire des actuels Pays-Bas financièrement. Et Londres n'est pas une place financière importante à cette époque-là. Enfin, c'est-à-dire qu'on a quand même une ville. qui est importante. On a du commerce qui tourne beaucoup autour du textile. Mais la finance stagne en quelque sorte et ça profite aux Flamands, aux Néerlandais. En France, on a aussi une place financière parisienne qui n'est pas dominante. Et on a vraiment, dès qu'il s'agit de négocier encore une fois des emprunts importants, on est obligé de traverser la mer du Nord ou la Manche pour aller négocier les emprunts sur de grandes échelles.
Alors on va voir comment cette place financière de la City va monter en puissance. Mais d'abord, le 30 janvier 1649, Charles Ier monte sur l'échafaud. Et c'est une exécution qui est racontée par Alexandre Dumas dans la suite des Trois Mousquetaires, son roman intitulé 20 ans après. Athos se trouve alors juste en dessous de l'échafaud.
D'une voix pleine et sonore, de manière qu'on l'entendit non seulement sur l'échafaud mais encore sur la place, « Remember », dit le roi. Il achevait à peine ce mot qu'un coup terrible ébranla le plancher de l'échafaud. La poussière s'échappa du drap et aveugla le malheureux gentilhomme. Puis soudain, comme par un mouvement machinal, il levait les yeux et la tête. Une goutte chaude tomba sur son front. Athos recula avec un frisson d'épouvante, et au même instant les gouttes se changèrent en une noire cascade qui rejaillit sur le plancher. Athos, tombé lui-même à genoux, demeura pendant quelques instants comme frappé de folie et d'impuissance. Bientôt, à son murmure décroissant, il s'aperçut que la foule s'éloignait. Il alla tremper le bout de son mouchoir dans le sang du roi martyr. Puis, comme la foule s'éloignait de plus en plus, il descendit, fendit le drap, se glissa entre deux chevaux, se mêla au peuple, dont il portait le vêtement, et arriva le premier à la taverne. Monté à sa chambre, il se regarda dans une glace, vit son front marqué d'une large tache rouge, porta sa main à son front, la retira pleine du sang du roi et s'évanouit.
Un extrait de 20 ans après d'Alexandre Dumas, lu par Romain de Bec de Lièvre. L'exécution de Charles Ier d'Angleterre va permettre donc à Cromwell de prendre le pouvoir. Ludovic Desmet, Cromwell va s'attaquer alors à la question de la stabilité financière du royaume.
Alors, on est encore une fois dans une période très troublée, comme on l'aura compris, hein, puisqu'il y a eu aussi des décapitations en Angleterre, comme l'a montré cet extrait. C'est jamais bon pour les affaires. Hein. Si on veut une constante pour développer la finance, il faut quand même plusieurs conditions, dont celle de l'existence d'une banque centrale, par exemple, qui a longtemps handicapé les États-Unis au XIXe siècle. Le fait qu'il n'y ait pas de banque supérieure des États-Unis a été un problème. Mais encore une fois, la condition principale, au-delà des conditions plus techniques dont on pourra parler un peu après, c'est qu'il faut qu'on ait confiance dans le remboursement futur des échéances.
Or, il y a une nouvelle répudiation de la dette qui intervient un petit peu plus tard, en 1672, au moment où une nouvelle guerre éclate contre les Provinces-Unies. Le roi Charles II décide de suspendre le remboursement de ses dettes. Donc, il y a à nouveau un problème de confiance, Ludovic Desmet.
Voilà, c'est ce que les Anglais appellent le stop of the exchequer, le stop de l'échiquier, on va dire ça en français, ça sera plus agréable à l'oreille, et voilà, c'est une nouvelle répudiation de la dette. Là, on ne saisit pas les stocks entreposés par les privés, mais on répudie purement et simplement la dette qui devient soi-disant intolérable pour le souverain, et à nouveau se pose la question de cette confiance dans la dette publique, dans la capacité de remboursement du souverain, et qui plombe quand même, on peut le dire, pendant une bonne partie du XVIIe siècle, la réputation des rois anglais à honorer leurs dettes.
On se rend compte que les orfèvres ne suffisent plus, en particulier après la glorieuse révolution de 1688, où Jacques II est renversé, et c'est Guillaume III d'Orange, le gouverneur des Provinces-Unies, qui est placé sur le trône. C'est un moment où la monarchie parlementaire est instaurée en Angleterre. Mais au même moment, les guerres continuent, notamment la guerre contre la France. C'est à ce moment-là, Ludovic Desmet, qu'on se rend compte que le financement à court terme est totalement inadapté aux besoins qui ne cessent d'augmenter.
Voilà. Alors là, on a vraiment une conjonction, on a presque un cas d'école dans l'histoire financière longue. C'est 1688-1689. On a tout un tas de facteurs qui vont là se combiner de manière très harmonieuse. Donc déjà, encore une fois, on importe en quelque sorte un souverain depuis les Pays-Bas, Guillaume d'Orange, qui va venir avec tous ses financiers flamands. Donc ils vont récupérer le savoir-faire qu'on avait aiguisé à Anvers et à Amsterdam depuis plus d'un siècle, avec les actions, les obligations, les rentes, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais tout un tas de techniques financières qui sont bien rodées. Ce souverain flamand est protestant, bien sûr, donc on gomme l'espèce de doute qu'il y avait sur son prédécesseur qui était catholique sur le fait qu'il sera favorable à la finance. Et puis, comme on est en guerre, il faut trouver des financements, et comme vous le dites, plutôt à moyen et long terme. Et pour ce faire, on va imaginer une combinaison qui est très originale, alors qui a été tentée par les Suédois une vingtaine d'années plus tôt, mais qui va être réédité sur une échelle beaucoup plus grande à Londres, c'est qu'on va fonder une espèce de caisse qui va être chargée de réunir des fonds privés pour prêter au roi, c'est-à-dire qu'on a un intermédiaire entre le marché et le souverain, qui va s'appeler le gouverneur et la compagnie de la Banque d'Angleterre. Et cette banque, à l'origine, elle a pour objectif principal de financer, encore une fois, les combats de Guillaume d'Orange contre les Français.
Alors, on va rentrer dans le détail, bien sûr, de cette Banque d'Angleterre créée en 1694. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui existe déjà à l'époque comme type peut-être de banque centrale? On peut parler de la Banque d'Amsterdam en particulier, qui est peut-être la première grande banque européenne à avoir le jour en 1609, Ludovic Desmet.
Voilà, en 1609, les Provinces-Unies fondent, c'est un pouvoir assez fédéral, disons, donc on a une coalition qui fonde une banque de change, hein, c'est le nom de la banque d'Amsterdam, qui s'appelle la Wisselbank, donc qui est formée en 1609, et qui a pour objectif principal, elle, de servir aux commerçants, c'est-à-dire de faire du change, puisqu'on a des milliers de monnaies, hein, au moins des centaines, voire des milliers de monnaies, qui circulent sur le territoire néerlandais, puisqu'il faut faire du change avec un peu toutes les monnaies du monde.
Et qui ont des valeurs très inégales, selon leur poids, notamment.
Voilà, et donc on fonde cette caisse là, cette banque d'Amsterdam, qui est chargée justement de gérer ce change et qui crée une monnaie de compte pour ce faire, le Florin de banque, qui tient des écritures et qui crédite et qui débite tous les commerçants qui ont un compte pour faciliter les paiements. Mais elle a un lien. Elle ne finance qu'accessoirement les dépenses publiques. C'est vraiment une banque qui est supérieure aux autres caisses qui existent à l'époque, mais qui est vraiment tournée vers le monde marchand et vers l'extérieur.
Mais alors ça, c'est caractéristique de nombreuses banques à l'époque. Ludovic Desmet, on a l'impression qu'effectivement, soit elles sont entièrement tournées vers le financement public, soit elles sont entièrement tournées vers le financement privé. Je pense à Gênes, aux banques espagnoles, ou à Bâle. C'est là l'originalité de la Banque d'Angleterre, c'est de rassembler, de fusionner ces deux canaux.
Voilà, c'est ça. Alors, on avait soit des banques publiques, soit des banques plutôt tournées vers les marchands un peu partout en Europe, hein, essentiellement en Italie, un peu en Espagne et dans le Saint-Empire romain germanique. Mais ce que fait on avait aussi la Banque de Suède, alors qui est... C'est comme ça que se présente la Banque de Suède, la plus vieille banque centrale du monde, hein, au milieu du XVIIe siècle. Elle qui est plus tournée vers le Parlement. Et en fait, la Banque d'Angleterre va fusionner les deux modèles. Le modèle suédois qui est tourné vers les dépenses publiques et le modèle plus continental européen qui est tourné vers les marchands. Et on a vraiment cette, comme vous le disiez, cette fusion des deux circuits. C'est-à-dire, c'est une banque qui est fondée par des marchands, c'est une société anonyme, hein, c'est une société par action, dont le titre va être coté à la Bourse de Londres. Et donc, c'est une espèce de grosse caisse d'épargne qui est destinée à regrouper ces fonds pour financer la guerre contre les Français. Donc, il y a l'aspect aussi patriotique qui va jouer.
Alors, avant de voir les oppositions peut-être que suscite ce projet, Ludovic Despeignes, je voudrais simplement qu'on s'arrête sur le fait que pendant ce temps, ce qui existe en Angleterre, ce sont des établissements bancaires de crédit qui s'appuient sur le principe de l'hypothèque, sur les biens ou sur les terres. C'est ça qui existe à ce moment-là en Angleterre.
Voilà, on va avoir pour le crédit privé, on va avoir soit ce qu'on appelle le crédit des Lombards, c'est-à-dire en gros c'est du prêt sur gage, ou alors vous mettez en jeu certaines possessions que vous avez pour faire du commerce, soit les banques foncières, donc qui reposent sur le système de l'hypothèque, où là vous êtes l'heureux possesseur de terre, et vous allez les hypothéquer, et vous allez avoir du cash en échange, et vous allez pouvoir investir et éventuellement développer vos affaires agricoles ou vous lancer dans le commerce lointain. Et ces banques foncières, d'ailleurs, vont être existent en Russie à l'époque, existent en France, mais sont très prisées en Grande-Bretagne, aussi en Écosse. Hein, John Law, qui sera plus tard en France, en Écosse, propose le développement de ces banques foncières parce qu'on a des terres, mais on a très peu d'argent en circulation, et donc, selon Law, ce système d'hypothèque pourrait doper le commerce et surtout l'économie écossaise, qui sont plutôt moribondes à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
Et ces banques foncières vont constituer une concurrence pour la Banque d'Angleterre, et il y aura aussi d'autres concurrences dont on parlera dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
Opportunities, let's make lots of money, des Pet Shop Boys sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre discussion sur les origines de la City au XVIIe siècle en compagnie de l'économiste Ludovic Desmet qui est avec nous en duplex d'Amiens. Alors on a parlé des conditions d'émergence de cette Banque d'Angleterre en 1694, Ludovic Desmet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui porte ce projet et quelles sont les oppositions qu'il suscite à ce moment-là en Angleterre ?
Alors, on a le projet en tant que tel est porté par un groupe de marchands qui est emmené par un Écossais qui s'appelle William Paterson, qui dépose un projet. À l'époque, encore une fois, on est en période révolutionnaire, on vient de changer de roi, de système de pouvoir. On a une coalition au début entre le parti Whig, qui est, disons, plutôt favorable aux intérêts d'argent et aux intérêts financiers, et puis les Tories, qui sont aussi du même côté au début, mais qui sont plus traditionnalistes et attachés aux valeurs terriennes. Et assez rapidement, on va avoir une tension entre les Tories, donc qui vont être du côté de la terre, en gros, pour aller vite, et les Whigs qui vont être plutôt du côté de la finance et de la city. Et donc, la Banque d'Angleterre est portée par des marchands influencés par les idées Whigs, dont le porte-parole politique est John Locke, hein, le grand philosophe qui a théorisé cette révolution et qui ensuite va écrire beaucoup sur la monnaie, assez peu sur la finance, mais beaucoup sur la monnaie, parce que c'est un sujet important aussi à l'époque, on le verra, mais la circulation monétaire en très mauvais état, et John Locke va publier plusieurs pamphlets pour essayer de restaurer un peu le prestige de la couronne britannique dans ce domaine-là. Locke va être d'ailleurs souscripteur, un des premiers souscripteurs à la Banque d'Angleterre. Et donc, encore une fois, on a une floraison de deux projets, et Patterson développe est auditionné, et on va lui accorder, pour une durée de 11 ans à l'époque, le privilège de fonder cette Banque d'Angleterre, qui est une société par action et qui est censée réunir 1,2 million de livres sterling qui vont aller dans les caisses de l'État.
Une Banque d'Angleterre qui distribue d'abord ses crédits au gouvernement et seulement en second lieu aux marchands ?
Voilà, le système, le business model de la Banque d'Angleterre, c'est un, on est le prêteur en premier sort, hein, pour prendre une expression beaucoup plus récente. Hein. Aujourd'hui, on dit que les banques centrales sont les prêteurs en dernier sort parce qu'elles interviennent sur le marché une fois que plus personne ne peut ne pas apporter de crédit. À l'époque, c'est le prêteur en premier sort, c'est-à-dire que elle passe avant tout les créanciers, et on a une société qui est d'un périmètre assez énorme, hein, un million de livres. On n'avait jamais vu une société privée aussi importante que ça naître sur le marché londonien, dans l'enthousiasme, encore une fois, de la glorieuse révolution. Et puis, on vend le projet en disant, voilà, si vous souscrivez, on va gagner contre les Français.
Et cela alors même que les Tories proposent un projet alternatif à la Banque d'Angleterre, qui est la National Land Bank, c'est-à-dire une banque nationale reposant sur le foncier, comme celle qui existait, dont on parlait il y a un instant.
Alors oui, justement, vu que le projet de la Banque d'Angleterre a réussi, assez rapidement, le camp d'en face monte un autre dossier concurrent avec une banque qui serait encore plus grosse, qui fait aussi appel à l'épargne privée, qui serait la Banque Nationale Foncière, dont l'objectif serait à peu près similaire, c'est-à-dire de prêter de l'argent à la couronne pour battre les Français. Mais il se trouve que au niveau du timing, c'est beaucoup plus compliqué. C'est que en 1695-1696, on a un gros problème de circulation monétaire, et que les pièces en circulation, on s'en rend compte, ça devient totalement patent depuis la Révolution, les pièces en circulation sont totalement contrefaites, rognées, c'est-à-dire que tout à chacun gratte le métal qui est sur les pièces en or ou en argent, récupère ce métal, le refond et fait de la fausse monnaie. Mais ça prend des proportions assez impressionnantes, puisque on considère que pour les pièces en circulation, elles ne contiennent en moyenne que la moitié de la teneur en or pour lesquelles elles ont été officiellement frappées et définies.
Et pourquoi ces phénomènes prennent autant d'importance à la fin du XVIIe siècle, Ludovic Desmet ?
Bah, souvent, les événements politiques et les événements monétaires sont liés. Hein. On peut penser à ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres au XXe siècle, avec la prolifération aussi de fausses monnaies en Europe, avec des faux billets un peu partout, en Europe centrale surtout. Quand le pouvoir a du mal à punir les faux monnayeurs, on a une floraison de contrefaçons de toutes sortes, hein, que ce soit avec les billets de banque ou avec les monnaies métalliques. Parce que le pouvoir a autre chose à faire qu'à vous punir. Hein. On est, encore une fois, dans un régime de transition, on est en guerre, et donc le faux monnayage est un délit qui est théoriquement puni de mort, mais en fait, les pouvoirs publics ont bien autre chose à faire qu'à poursuivre les faux monnayeurs.
Et encore une fois, ils vont commencer à s'emparer de cette question, Ludovic Desmet. Le pouvoir va décider de refondre la totalité des pièces.
Voilà, alors on a un débat à l'époque. Soit on laisse filer, c'est-à-dire qu'on prend acte du fait que les monnaies en circulation sont d'un poids bien inférieur à la teneur légale, et on entérine cette dévalorisation. En gros, en termes modernes, on déprécie la monnaie ou on dévalue la monnaie. C'est ce que propose d'ailleurs le secrétaire du Trésor qui s'appelle William Lowndes. Et en face, on a John Locke, le principal opposant à cette mesure, donc le théoricien du changement de régime, qui dit « Ah non, Les pièces de monnaie, c'est justement une partie de la souveraineté de l'État. Si on laisse filer la monnaie, si on la dévalorise, si on la déprécie, c'est que le roi considère que sa parole ne vaut rien. Il faut au contraire récupérer toutes les monnaies en circulation et les refondre au poids légal. Et en plus, ça permettra, puisqu'à l'époque, sur les pièces de monnaie, on a le profil du souverain, ça permettra de faire connaître aux Anglais leur nouveau roi, parce qu'on a encore des pièces qui circulent depuis Élisabeth, c'est-à-dire depuis un siècle et demi. Et donc, toutes ces pièces totalement dévalorisées sont à refondre. Et Locke va l'emporter, et Guillaume d'Orange, qui pourtant a autre chose à faire, hein, puisqu'il faut qu'il gagne la guerre contre les Français, va en pleine guerre, en 1696, rapatrier toutes les monnaies dans les hôtels des monnaies, principalement à Londres, mais aussi dans certaines villes anglaises, et refondre à la valeur légale les pièces, qui va provoquer une énorme famine monétaire, puisque bon, c'est ce qui s'est passé en Inde il y a quelques mois, hein, c'est-à-dire qu'on a dévalorisé la plupart des billets en circulation, on les a retirés de la circulation, on a remis des nouveaux billets en circulation. Sauf qu'en Angleterre, le fait de refondre la monnaie prend énormément de temps.
Et donc, pendant ce temps-là, les gens n'ont plus de monnaie. Pendant lequel il y a des pénuries de moyens de paiement, et c'est notamment l'une des causes qui explique l'échec de cette banque nationale qui repose sur le foncier proposé par les Tories.
Voilà, si on revient au sujet de départ, la banque hypothécaire qui était censée rivaliser et écraser la Banque d'Angleterre, en fait, est lancée en pleine pénurie monétaire. Et c'est-à-dire que ceux qui voudraient bien être souscripteurs et être actionnaires de cette banque n'ont pas les espèces disponibles pour financer cette initiative. Et donc, en fait, ça va être un énorme échec. Imaginez une introduction en bourse, en fait, hein, comme aujourd'hui, hein, avec le domaine à la mode, c'est-à-dire la finance, puisqu'on a lancé la Banque d'Angleterre, qui est un peu le navire amiral. On essaye la banque hypothécaire, mais manque de chance, on est en pleine, encore une fois, refrappe des monnaies. Et personne ne... Enfin, il y a très peu de fonds, hein, on collecte même pas 10% de la somme qui était prévue, et donc c'est un échec assez retentissant de la part de cette banque Tory.
Alors cela fait un concurrent de moins pour la Banque d'Angleterre, mais des concurrents, il y en a d'autres. Au début du XVIIIe siècle, il y a la Compagnie britannique des Indes orientales, il y a la Compagnie des mers du Sud. Expliquez-nous peut-être, Ludovic Desmet, en quoi ces institutions sont des concurrentes pour la Banque d'Angleterre.
Alors, effectivement, on a quand même un marché. Alors, si on revient au sujet de départ qui est la City, jusque à la glorieuse Révolution, on avait une quinzaine de titres qui étaient cotés régulièrement dans les pubs, les coffee houses. Là, on avait une quinzaine de sociétés privées, de joint stock companies, qui étaient cotées, avec la principale qui était la compagnie des Indes orientales anglaise, hein, pas la néerlandaise, et puis deux ou trois autres compagnies qui étaient des compagnies essentiellement coloniales, hein, c'est-à-dire celles qui étaient chargées d'exploiter ce qu'on retirait de la baie d'Hudson. Donc essentiellement des pots. Les pots de castor sont très à la mode en Europe à cette époque-là. La Compagnie des Indes orientales qui s'intéresse à l'Asie, et puis la Royal African Company qui est, comme son nom l'indique, chargée d'importer de l'ivoire ou de l'or de Guinée et de certains territoires africains.
Et en quoi ces compagnies jouent-elles un rôle similaire à la Banque d'Angleterre ?
Alors, c'est en termes de puissance. Alors, la Banque d'Angleterre est supérieure en termes de capital, mais ce sont les trois grandes sociétés dont les actions sont connues par tout le monde et qui sont cotées très régulièrement. C'est-à-dire que à l'entrée de ces échoppes là dont on parlait tout à l'heure, où on négocie les titres, on a le cours de change sur les principales places européennes qui sont affichées, avec la France, avec les Pays-Bas, etc. Et on a trois ou quatre titres de compagnie, trois ou quatre actions phares qui sont cotées aussi. C'est la Compagnie des Indes orientales, la Compagnie royale africaine et l'Hudson Bay Company, en plus de la Banque d'Angleterre. Et 10 ans après la Glorieuse Révolution, on considère que on a plus simplement 10 ou 15 titres qui sont cotés régulièrement, mais 150. Et ça va exploser au début du XVIIIe siècle. On va passer à 200, 300, 400 titres côté. Et comme, encore une fois, la Banque d'Angleterre réussit, puisque son privilège royal va être de nouveau étendu, c'est-à-dire après ses 11 ans d'exercice, comme elle a donné satisfaction, parce qu'après 11 ans, elle devait être dissoute normalement.
Hein, c'était elle devait vraiment être un expédient temporaire à la base.
Voilà, c'est ça qui est assez étonnant dans toutes ces histoires, parce qu'on a encore une fois l'impression qu'une fois qu'on l'avait lancé avec des circonstances favorables, le vent soufflait dans le bon sens, et voilà, c'était parti pour 2 siècles et demi d'existence. Pas du tout. C'était programmé pour être dissous au bout de 11 ans. Puis comme on voit que ça donne satisfaction au roi, qui peut se financer un peu moins cher qu'avec des créanciers privés, que ça donne satisfaction aux actionnaires qui ont des retours sur investissement, que ça donne satisfaction aux marchands, puisqu'on ne l'a pas encore dit, mais la Banque d'Angleterre pratique de l'escompte et remet des billets elle-même, comme le faisaient les orfèvres londoniens, comme elle remet des billets qui circulent dans toute la city, puis ensuite qui vont étendre leur circulation dans les provinces anglaises.
L'escompte qui est d'un remboursement précoce, c'est cela ?
Voilà, c'est ça. J'ai un titre de dette privé qui vient à échéance dans 6 mois, mais je ne peux pas attendre les 6 mois. Je me présente à la Banque d'Angleterre et elle me le rachète selon une petite décote. Mais du coup, moi, je suis content parce que j'ai du cash. J'ai pas à attendre les 6 mois de l'échéance. Et la Banque d'Angleterre, elle, peut attendre les 6 mois et demandera le remboursement complet de cette créance. Mmh. Et donc, comme elle donne satisfaction, on renouvelle régulièrement sa charte, ensuite ça sera des durées de 20 ans, mais à chaque fois, on ne sait pas si dans les 20 ou 30 ans qui suivent, elle sera toujours existante et si elle donnera, elle continuera à donner satisfaction. D'où le grand intérêt pour les gouverneurs de la Banque d'Angleterre d'être très proches du pouvoir, avec les alternances Tory-Whig qui posent des problèmes. Et donc, comme vous l'avez dit, les Tories qui voient... donc la Banque d'Angleterre est clairement Whig, donc du côté de la City, des intérêts financiers qui sont en train de s'épanouir après la Glorieuse Révolution. Et donc les Tories qui ont loupé leur coup avec la National Land Bank lancent une compagnie des mers du Sud, puisqu'à l'époque, ce qui est rémunérateur dans le commerce, ce sont encore une fois les terres lointaines. La compagnie des mers du Sud, elle est chargée de retirer tout ce qu'il y aura de profitable depuis la Terre de Feu jusque en gros le Panama, hein, c'est-à-dire bon, en même temps ça va être compliqué parce qu'il faut négocier avec les Espagnols et les Portugais pour accéder à ce genre de territoire, mais on espère trouver de l'or, de l'argent et puis surtout faire le commerce d'esclaves. Et donc la compagnie des mers du Sud est lancée en 1711-1712 pour à la fois faire du commerce d'esclaves et bénéficier des apports, encore une fois, des mines ou de ce qu'on pourra trouver en Amérique du Sud.
Mais elle va faire l'objet d'une spéculation massive et même provoquer le premier krach boursier en 1721, Ludovic Desmet, ce qui va provoquer quoi, son effondrement ?
Voilà, alors elle ne va pas totalement disparaître, mais son histoire est assez brève. Donc elle est lancée une quinzaine d'années après le lancement de la Banque d'Angleterre. Et elle va faire l'objet d'une spéculation. Alors, il faut aussi dire que tout ça est... On a déjà des liens entre les principales places financières européennes, puisqu'à l'époque, on a John Law qui est en train de repositionner la France en Europe. Law a été fasciné par ce qu'il a vu à Amsterdam. Il voudrait bien que Paris devienne une Amsterdam bis. Et donc, il est devenu... Le financeur officiel par la compagnie du Mississippi qui devient aussi banque royale et banque de l'État, il est en train de refonder l'ensemble de la dette française. Et il y a une effervescence dans les années 1715-1720 à Amsterdam, à Paris et à Londres, qui sont étroitement connectés. Hein. Mmh. John Law lui-même, via son correspondant à Londres, va acheter des titres de la compagnie des mers du Sud. Donc on a une ébullition, c'est-à-dire que à l'époque, on a l'impression qu'on a trouvé un peu la pierre philosophale, c'est-à-dire que les marchés financiers sont en train de croître à grande vitesse. Encore une fois, on lance des compagnies commerciales qui parient sur tout et n'importe quoi, et aussi souvent sur le gogo, c'est-à-dire que certains affichent leurs bonnes intentions en disant « voilà, j'ai trouvé une super méthode pour vous faire... devenir riche, je ne peux pas l'ébruiter, mais donnez-moi 100 livres et je vous expliquerai ensuite comment on fait. »
Et c'est pour ça qu'on assiste à un krach boursier à Paris et à Londres presque simultanément.
Voilà, donc on a une grosse effervescence, mais dans les deux cas, à Paris comme à Londres, d'ailleurs, a priori, la compagnie des mers du Sud se serait un peu inspirée de ce qui se passe du côté de Law, c'est-à-dire que Law voulait fusionner à la fois les affaires commerciales et remettre en ordre la dette publique française. C'est-à-dire que, mais encore une fois, un peu sur le modèle de la Banque d'Angleterre, hein, qui s'immisce entre les affaires publiques et les affaires privées. Mais en recalibrant en quelque sorte la dette publique et en normalisant cette dette publique avec des échéances beaucoup plus constantes. Et la Banque des Mers du Sud, enfin pardon, la Compagnie des Mers du Sud, veut faire la même opération. Tout le monde pense que, puisqu'on est du bon côté, la Tory, que totalement surpasser la Banque d'Angleterre. Mais le cours passe en gros de 100 livres en quelques mois à 1000 livres sterling. Et puis, comme ça, c'est aussi une autre leçon de l'histoire, c'est que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, qu'à un moment, il y a un doute. On commence à parler de corruption parce qu'il y a certains membres des communes jusqu'au plus haut sommet de l'État. Il y a eu de la corruption pour qu'on autorise certains privilèges à cette compagnie, etc. Et qu'on outrepasse totalement les règles communes qui s'appliquent aux compagnies privées et aux sociétés par action. Et du coup, le titre commence à décrocher à l'été. Et
finalement, la Banque d'Angleterre sort renforcée de cet épisode.
Voilà. Et là aussi, ça a des échos totalement modernes. C'est que la Banque d'Angleterre, même si son prix a été, même si le cours de son action a été tiré vers le haut lors de cette bulle, elle a quand même beaucoup moins été exposée, comme les vieilles compagnies, les plus vieilles compagnies commerciales anglaises. Et donc, elle échappe au crash, et non seulement elle échappe au crash, mais elle va faire un bail-out, c'est-à-dire qu'elle va sauver, en quelque sorte, les créanciers de la Compagnie des Mers du Sud, avec l'appui de la couronne anglaise, et elle va en sortir renforcée, puisque ça fait deux fois qu'on essaye de l'attaquer du côté Tory. La première fois avec la grande banque hypothécaire, et puis 15 ans plus tard avec la Compagnie des Mers du Sud. Et les deux fois, elle a résisté au choc. Et donc, en plus, elle a repris la dette qui avait été absorbée par la Compagnie des Mers du Sud et renégocié l'emprunt avec la couronne et la City de Londres.
Et c'est une période effectivement où les besoins financiers ne cessent d'augmenter puisque se développe une bourgeoisie marchande, bourgeoisie qui a inspiré Daniel Defoe lors de l'écriture de son grand roman Robinson Crusoe.
Il y a plusieurs traits qui font de Robinson un personnage qui rend compte d'une culture qui est en émergence. En particulier, je l'ai déjà dit, il y a la relation au travail, mais il y a aussi le fait que Robinson se retrouve isolé, donc sans liens sociaux. Et c'est peut-être la manière dont peut se représenter la bourgeoisie émergente, hein, qui se vit aussi comme isolée politiquement au moins dans l'Angleterre de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Et donc oui, il est représentatif d'une certaine manière de concevoir en quelque sorte le lien social. Alors c'est paradoxal puisqu'il est isolé, mais précisément on entre dans une société dans laquelle les individus ne sont plus définis de manière aussi précise qu'ils l'étaient auparavant par des liens sociaux qui sont définis avant leur naissance.
Voilà, Claire Pignol, économiste, maître de conférence en économie à Paris 1. Qu'est-ce qu'on peut dire, Ludovic Desmet, de cette bourgeoisie émergente qui investit de plus en plus en bourse? On a entendu Daniel Defoe ici, mais il y a aussi l'écrivain Jonathan Swift qui va consacrer un poème à cette question de la spéculation boursière, poème intitulé La bulle.
Alors, c'est deux grands romanciers dont on lit encore les œuvres aujourd'hui. Elles ont traversé les époques, mais sont très branchées, effectivement, sur les affaires financières et politiques de l'époque. Les deux auraient d'ailleurs reçu des fonds plus ou moins dissimulés de la part des Tories et de Robert Harley dans les années, justement, 1710-1720, pour inciter les gens à acheter des actions de la Compagnie des Mers du Sud. Et en particulier, alors chez Swift, c'est beaucoup plus discret, mais Defoe, lui, vivait de sa plume, faisait paraître un journal plusieurs fois par semaine où il était le seul rédacteur, donc il s'occupait à la fois de politique, de finance, et donc incitait plutôt, alors c'est assez paradoxal chez lui, après avoir conspué tous les trafics qui pouvaient exister à Exchange Alley, c'est-à-dire là où étaient les financiers, une dizaine d'années avant. Ensuite, il va plutôt plaider pour la Compagnie des Mers du Sud. Mais on retrouve ça aussi en écho dans leurs œuvres, soit romanesques, soit politiques. Donc Robinson Crusoe, et c'est vrai que c'est difficile de l'intégrer dans ce schéma, puisqu'il est à l'écart des circuits commerciaux, mais on a un autre ouvrage qui date des mêmes années de Defoe, qui est Le journal de l'année de la peste, qui est quand même un roman très impressionnant, et qui est une métaphore, en quelque sorte, du Londres d'après la crise financière, c'est-à-dire que tout le monde se méfie de tout le monde, on ne sait pas si tel ou tel est infecté, comme on ne sait pas, sur le marché financier, si on a acheté une action nation qui va survivre ou qui va disparaître dans les turbulences financières. Et Swift publie effectivement un poème qui s'appelle La Bulle, où il se raille.
Car il perd lui-même une grosse somme d'argent.
Alors, il avait investi depuis l'Irlande dans ses affaires financières. Alors, Swift, c'est quand même un personnage assez intéressant, un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il investit dedans, mais en même temps il raille dans son poème ceux qui se sont fait avoir comme des gogos, et il
les compare à Icare.
Voilà, Icare qui
a les ailes brûlées, voilà.
Voilà, et il parle aussi de lunettes déformantes, c'est-à-dire qu'on a confondu les illusions et la réalité, et il parle aussi de paper mills, c'est-à-dire qu'on lance des usines à papier, hein, pour bien signifier que toutes ces banques, toutes ces compagnies commerciales, selon lui, n'ont pas grand intérêt. Mais en même temps, c'est un rentier qui a envie d'avoir des retours sur investissement et qui va investir dans certaines de ses affaires.
Ce que l'on comprend bien, Ludovic Desmet, c'est qu'il y a à la fois une méfiance grandissante envers ce caractère fictif de la bourse et en même temps un développement de cette finance et une place financière qui est la City qui prend de plus en plus d'ampleur, en particulier avec la création en 1734 de la première société d'assurance, la Lloyd's Coffee House. On a ces deux phénomènes qui vont de pair, la méfiance et le développement de la finance en cette première moitié du XVIIIe siècle.
Oui, on a reconstruit avec... alors, on est en pleine période mercantiliste, comme l'appellera plus tard Adam Smith. Et Smith et les classiques vont mettre au premier rang des qualités de l'homo economicus, la rationalité. Or, au XVIIe, XVIIIe siècle, quand on lit les gens qui écrivent sur la monnaie, la finance et l'économie en général, on n'est pas du tout dans le monde de l'homo economicus. On est dans une situation extrêmement passionnelle où on se rend bien compte que de temps en temps on prend des vessies pour des lanternes, où on peut se faire totalement abuser et où on est dans des situations qui peuvent frôler l'hystérie. D'ailleurs, Defoe, dans ses écrits sur la finance, parle souvent de Lady Credit, Madame Crédit, qui est totalement inconstante, qui est sujette à la fois à des crises de mélancolie et à des crises d'euphorie, qui ne sait pas trier le bon grain de l'ivraie. Et c'est aussi à la période Foucault, on a parlé, Michel Foucault, dans l'histoire des idées, où on a un médecin anglais qui fait paraître un bouquin, dans ces années, suite au krach de la Compagnie des Mers du Sud, on parle de maladie anglaise. Et la maladie anglaise, c'est une maladie qui vous fait perdre tous les repères et qui, en gros, une espèce de préfiguration des crises hystériques. Et on n'est pas du tout dans un monde dépassionné, au contraire. Et les contemporains sont assez... déstabilisé par ce nouveau monde qui émerge, où on peut faire des fortunes en quelques mois, voire en quelques semaines, si on a misé sur la bonne compagnie.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Ludovic Desmet, un dernier mot peut-être sur l'émergence de ces institutions financières qui vont accompagner et aussi peut-être favoriser la révolution industrielle qui intervient particulièrement tôt en Angleterre et aussi permettre à la City de Londres de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire l'une des plus grandes places financières du monde.
Voilà, on est dans la répétition et la mise en place d'un contexte qui va être extrêmement favorable aux innovateurs, hein, pour reprendre l'expression de Schumpeter, on a des entrepreneurs qui vont être des innovateurs, qui vont innover dans le domaine de la mécanisation du textile, la machine à vapeur, hein, plus tard les locomotives, etc., dans les moyens de transport, dans les moyens de production. Mais pour qu'ils puissent s'épanouir et pour que leur découverte puisse s'exporter, il faut au premier chef qu'on ait des financeurs. Et ces financeurs, ça va être soit les actionnaires, hein, des compagnies commerciales, des sociétés anonymes, ou des banquiers. Et la répétition avec ces crises, va entraîner une régulation quand même du monde financier, une pérennisation de la Banque d'Angleterre qui va savoir exercer une espèce de tutelle sur ce monde qui peut de temps en temps virer vers l'hystérie. Et donc, au XVIIIe siècle, tout sera prêt pour mettre en place la révolution industrielle.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
6000 personnes de 30 pays au forum de Riyad, deux fois plus qu'en 2017, preuve que le Davos du désert saoudien a passé le cap de l'affaire Khashoggi et renoué avec les investisseurs.
Eh bien c'est toute l'affaire pour ce troisième forum intimement lié au plan Vision 2030 de Mohamed Ben Salman, qui vise à diversifier l'économie saoudienne essentiellement pétrolière et augmenter ses exportations. Les entreprises occidentales, de fait, qui s'étaient absentées l'année dernière, sont revenues avec une forte participation des Américains, 49%, notamment l'entreprise Dow Chemical sous le fonds d'investissement Blackstone Group. Nouveauté aussi parmi les 30 pays venus à Riyad, la présence notoire des fonds d'investissement chinois et russes, des pays du BRIC comme l'Inde avec le groupe Reliance, le Brésil, des pays africains, le Niger, le Kenya, le Congo, Brazzaville. Noté Samir Haïta, le président du Cercle des économistes arabes. Mais si l'objectif est de diversifier l'économie, eh bien le forum n'est pas exempt de quelques faiblesses. Écoutez Samir Haïta.
Ce qui est plus étonnant au niveau des pays, c'est l'absence de représentation du monde arabe. Il y a une session sur le Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient, il n'y a que le Bahreïn, le Koweït et bien sûr l'Arabie Saoudite. Et aussi, ce qui est marqué en point de vue secteur économique, l'absence d'investisseurs de grandes entreprises techniques, pas financières, notamment dans les hautes technologies, alors que l'image de la conférence et le but, c'est d'augmenter la présence technologique ou le développement dans les technologies de l'information de l'Arabie Saoudite. C'est pas très clair, c'est-à-dire quand vous regardez les chiffres sur la pénétration des technologies de l'information ou l'innovation en Arabie Saoudite par rapport à son PIB par habitant, elle est loin derrière les pays similaires. On ne peut pas comparer l'Arabie Saoudite avec le Yémen, par exemple, qui a un PIB par habitant beaucoup plus faible. Or, il y a besoin donc d'investir dans ces technologies en Arabie Saoudite. Il y a des sociétés présentes, vous les avez citées, mais il n'y a pas les grands mastodontes américains qui sont quand même les drives de cette chose-là.
À noter particulièrement, Xavier, l'absence de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon.
Oui, absence très remarquée. Il ne viendra pas plus qu'aucun des personnels d'Amazon, qui avait pourtant un projet de centre de données avec Riyad. Mais Jeff Bezos est aussi le propriétaire du Washington Post, qui est donc en froid avec Riyad depuis le meurtre de Jamal Khashoggi, qui y travaillait. Tout n'est donc pas gagné pour l'Arabie Saoudite. Le chômage reste élevé à 10% et le FMI a d'ailleurs baissé ce mois-ci ses prévisions de croissance à 0,2%.
Passe au bref, avec une semaine importante pour l'évaluation de la santé de l'économie américaine. Plusieurs annonces à venir, à commencer par la Fed aujourd'hui.
Et oui, la Banque centrale américaine qui pourrait prolonger sa politique, disons généreuse, et baisser ses taux directeurs pour la troisième fois, actuellement entre 1,75 et 2%. Il pourrait passer à un quart de point de moins, manière de faciliter justement le lady credit, comme dirait Defoe, mais aussi un risque d'inquiéter les investisseurs. Ceci alors que les marchés attendent aussi les chiffres de la production américaine cette semaine, le PIB au troisième trimestre demain et rapport sur l'emploi vendredi. À New York, en tout cas ce matin, le Dow Jones et S&P 500 baissaient de 0,1%. Effet nouveau au moment où un accord avec Pékin se profile, alors que ces derniers mois c'était la guerre commerciale qui inquiétait et l'économie intérieure qui rassurait, eh bien c'est l'inverse qui pourrait se passer.
Et pour finir, il fallait s'y préparer. Après 5 mois de tensions politiques, la 10e puissance économique mondiale, Hong Kong, entre en récession.
Un coup considérable à l'économie de Hong Kong, déclarait hier le secrétaire aux finances de Hong Kong, Paul Chan, avant la publication qui devait avoir lieu aujourd'hui des chiffres du PIB. En tout cas, il se contracterait pour le deuxième trimestre consécutif, une récession technique. Donc, les commerces de centre-ville, on le savait, souffraient depuis des mois, mais la crise touche maintenant les exportations, baisse de 7% sur un an en septembre ou de 50% pour le tourisme en octobre, ceci malgré plus de 21 milliards de soutien aux entreprises. Paul Chan estime la situation extrêmement difficile. My hero, my hero now. My hero, my hero now. Yeah. Please don't you be bad.
On se quitte avec Michael Kiwanuka et son dernier titre Hero. Merci beaucoup Ludovic Desmet de nous avoir accompagnés dans les ruelles de la City au tournant des 17e et 18e siècles. Un grand merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Amiens qui ont permis ce duplex. Demain, nous nous infiltrerons au sein de la société victorienne à l'heure de l'apogée de l'Empire colonial britannique. Nous serons en compagnie des historiens Philippe Chassaigne et Jean-François Duniac. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Vous trouverez également des références et des liens complémentaires sur notre compte Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.